Au quotidien, avec Hélène Denis.
Premier avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Oui! Est-ce que vous la connaissiez, cette phrase, cet adage? Est-ce que vous le connaissiez? Oui, Mathieu?
Bien, je comprenais pas pourquoi on disait au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, mais après, fréquentant des Français et Françaises, tu comprends.
Oui. Alors, on dit plaît pour...
Mais...
Pour que ça rime. Bon, alors, on a entendu, je sais pas si c'est des gargouillements ou des rires ou je ne sais trop. Serge, qui est de retour en studio. Bonjour, Serge.
Oui, Hélène. Bonjour.
Alors, aujourd'hui, la JO 1976.
Ben oui, il y a eu deux chansons qui avaient été écrites pour les Jeux olympiques. Alors, je vous parle de ça. Puis, il y a une saga autour de ça. C'est assez amusant, vous allez voir. Et puis aussi, ben, je devrais avoir le temps de vous parler un petit peu d'une exposition qui est au musée McCord, justement, sur les 50 ans des Olympiques.
On va pouvoir aller la visiter. Là, encore plusieurs jours. Là.
Oui,
c'est une longue exposition.
Oui, ça a commencé le 27 mars jusqu'au 13 septembre. Donc,
On dit toujours ça, on a le temps, puis finalement,
on n'y va pas.
Il reste une journée. Non, il faudrait y aller. Isabelle, ça va?
Oui, ça va.
Oui, vous allez nous donner une recette aujourd'hui.
Ben, si vous êtes faim, là...
OK. On va faire notre possible.
C'est ça. Mais oui, en fait, je vais vous parler de cuisine collective. C'était quand même un court article que j'avais préparé. Donc, j'ai aussi vu passer dans mon fil la recette de grand-père au sirop d'érable de Sœur Angèle et... Ça a attiré mon attention, comme on dit.
C'est drôle comme nom, hein, quand même, des grands-pères au sirop d'érable.
Ouais,
pourquoi on appelle ça des grands-pères?
Bonne question,
On va faire une recherche. On va voir si on va avoir la réponse.
OK, on va regarder ça. On va être attentifs aussi. Bien, merci d'être là. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Ah oui, la chef d'orchestre Dina Gilbert sera avec nous en studio pour nous parler d'un grand concert attendu qui prendra l'affiche à partir de la semaine prochaine à Montréal, à la Maison symphonique. Mais il y aura aussi des représentations à Québec, à Sherbrooke, à Trois-Rivières. Dubois, biographie symphonique, c'est un spectacle instrumental, concert instrumental, qui contient 31 pièces de Claude Dubois, ses grands succès, il y en a tellement, en version symphonique. Alors, ça pique notre curiosité. On en saura plus avec Dina Gilbert. Comment ça va, Mathieu?
Je vais très bien.
Ah, vous êtes chanceux, vous. Moi, je me suis réveillée avec un estomac un peu à l'envers. Je pense que c'est... Au déjeuner, j'ai mangé une banane. Et saviez-vous quoi? La banane avait une sorte de goût de sardine. Poisson d'avril!
Non, je ne veux plus jamais travailler. Plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi! Non, mais laissez-moi! Non, mais laissez-moi! Manger ma banane! Non, mais laissez-moi! Non, mais laissez-moi! Manger ma banane! Non, mais laissez-moi! Non, mais laissez-moi! Manger ma banane. Non mais laissez-moi. que de pas finir ma banane.
La banane de Catherine.
En ce 1er avril 2026, à la une des nouvelles, on est loin des poissons d'avril. Procès civil à la une du Devoir, premièrement. 8 femmes ont gain de cause contre Gilbert Rozon. L'ex-mania de l'humour a été condamné à leur payer 880 000 $ pour les avoir agressées sexuellement. Gilbert Rozon a agressé sexuellement plusieurs femmes, a déclaré la juge Chantal Tremblay de la Cour supérieure du Québec, en le condamnant à payer des dommages à 8 des 9 femmes qui le poursuivaient au civil. Son jugement rendu mardi représente une victoire importante pour celles qui ont mené l'une des plus grandes batailles du mouvement « Moi aussi » au Québec. Le fondateur de Juste pour rire devra donc ouvrir son portefeuille et leur verser 880 000 $ en réparation des préjudices qu'elles ont subis et en dommages punitifs, ordonne la magistrate en écrivant la conclusion de ce procès fleuve qui s'est déroulé durant de longs mois en 2025 au Palais de justice de Montréal. Il en est question également dans le Journal de Montréal, une victoire qui marque un tournant majeur, écrit José Legault dans le journal. Tout au long d'un procès civil historique, les courageuses ont tenu bon. Rien ne les a stoppées, pas même les complaintes délirantes, méprisantes et ouvertement misogynes de l'empereur déchu Gilbert Rozon. Il était révoltant de l'entendre se dépeindre ad nauseam comme la pauvre victime de soi-disant menteuses et profiteuses incapables, clamait-il la main sur le cœur qu'il n'a pas, de lui résister. Dans son jugement tout aussi historique, la juge Chantal Tremblay a cru la parole de 8 sur 9 d'entre elles, victimes d'un homme alors tout-puissant, dont le modus operandi était celui d'un prédateur sexuel. C'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Et ce qui occupe aussi la une du Journal de Montréal, c'est un rapport accablant à Varennes, conflit d'intérêts et accro à l'éthique concernant le maire dans une transaction de terrain. Le maire de Varennes, Martin Danfous, se serait placé en conflit d'intérêts en bloquant l'achat d'un terrain par la ville, car il souhaitait en faire lui-même l'acquisition, a découvert notre bureau d'enquête. Et selon l'avis juridique, le conflit d'intérêts du maire aurait pris fin lorsque sa fille a acheté la propriété à sa place, même si la prudence reste de mise pour la ville dans ce dossier. Et puis, hockey, 47e but pour Caulfield et une 6e victoire de suite pour le CH. Nouvelle réjouissante, s'il en est une. Ça nous en prend une fois de temps en temps. Et à la une de la presse, on voit Gilbert Rozon, le mot « justice » a enfin trouvé un sens. Après le verdict, le soupir de soulagement des victimes, Gilbert Rozon devra verser la somme de 880 780 $ à 8 des 9 plaignantes à la suite de sa condamnation au civil pour viol et agression sexuelle, un jugement qui pourrait avoir de grandes répercussions. Et Éric Martel écrit, après avoir remporté une victoire grâce à laquelle Gilbert Rozon se voit condamné à leur verser près de 900 000 $ ces 8 victimes poussent un soupir de soulagement. Elles espèrent que ce verdict en incitera d'autres à porter plainte. Le mot « justice » a enfin trouvé un sens, pousse Annick Charrette en conférence de presse. Il s'agit de l'une des 9 membres du groupe, les courageuses ayant poursuivi au civil l'ex-mania de l'humour. « Nous sommes debout devant les mythes, les préjugés, l'arrogance et le mépris. Nous ne baisserons plus jamais les bras », ajoute-t-elle. Pendant sa prise de parole, les autres plaignantes essuient leurs larmes, se tiennent les mains. Le verdict rendu mardi est l'aboutissement d'un procès fleuve de 10 mois. Les 10 dernières années, Gilbert Rozon a marché dans la rue, libre, la tête haute, arrogant. « Moi, j'ai pris mon siège et j'ai attendu. C'est à lui de baisser la tête maintenant. » « Moi, je ne la baisserai plus jamais », lance Mme Charrette. Une autre des victimes, Patricia Tulane, espère entamer un nouveau chapitre de sa vie. « J'ai l'impression de décharger le fardeau de 20 ans de silence », dit-elle. « Aujourd'hui, la honte a changé de camp », déclare-t-elle en référence au slogan popularisé par l'affaire Pellico en France. Martine Roy, qui a été agressée par Gilbert Rozon 2 fois, en 1993 et en 1995, avoue que ce procès a ramené à la surface un moment de sa vie qu'elle n'avait pas choisi. Gagner ce procès, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé, mais c'est enfin voir la vérité, être reconnu, c'est reprendre le pouvoir qui nous a été enlevé, c'est transformer notre blessure en force, souligne-t-elle.
On a viré loin, volé haut, touché le top des tours du drone, a craqué nos ressorts jusqu'à sa pète, craqué nos corps comme des allumettes. Pas de break, même si la bande te pine, viens, on va couper ta ligne avant de virer nos vies à l'envers. Post-rate passive, agressif. Je me demande encore ce qu'il nous reste à vivre. Pousse ta luck, puis par la peau. Puis touche du bois, même pas encore à la traque. Déjà pogné de l'autre bord, on va revenir à la noche. Ouais, c'est mon last call avant de virer nos vies à l'envers. Avant de redresser la pente, je pars de la descente. Comment faire, marée haute solitaire. Tu dis qu'il est trop tard, que le bol déborde, que jamais de bonne fin pour les filles folles. Moi je m'en vais décrocher la lune, accrocher à ton cou avant que le ciel s'allume. Tu veux toujours rester un peu plus longtemps, tu me fais peur, reviens descend. Ouais, on veut virer nos vies à l'envers. C'est grande pour tes pupilles, d'un lien assez creux pour ta fatigue. Il faut se pardonner, je suis partie en retard, j'ai couru toute l'année. On veut virer nos vies à l'envers avant de redresser la pente. semaine avant de virer nos vies, avant une dernière ride, une dernière fin de semaine.
La formation Rose et leur chanson « Virer nos vies ».
Et on joint Isabelle Falardeau qui a été intéressée par un article. En fait, c'est un témoignage ou une opinion qui a été publiée le 26 mars à propos des cuisines collectives.
Oui, c'est ça. C'est Julien Barranger qui est coordonnateur général du regroupement des cuisines collectives du Québec. Et donc, jeudi le 26 mars, il signait cette lettre « Mettons les cuisines collectives au menu du gouvernement ». Moi, je l'ai trouvé dans le journal de Montréal. Et donc, il nous dit que personne n'a besoin d'être un grand chef pour aimer cuisiner. Hein. Il suffit de vouloir mijoter un bon petit plat pour notre famille, nos proches ou nous-mêmes. Un bon petit plat comme, je sais pas, mettons, des grands-pères dans le sirop.
Par exemple. Mettons. Hein?
Bon, c'est pas ça qui est dit dans l'article, mais c'est ma petite contribution personnelle. Mais cet acte vital du quotidien devient éminemment économique, social et politique. Dans ce contexte actuel où on vit, donc l'inflation, les prix du panier d'épicerie et l'insécurité alimentaire ne cessent de gagner du terrain. Et dans l'espace public, trop souvent, l'enjeu de la précarité alimentaire est lié aux demandes croissantes dans les banques alimentaires. Et bien que ce soit des services essentiels et qui doivent être soutenus encore davantage dans le contexte actuel, il faut savoir qu'il y a seulement 25 % des gens qui ont faim. Seulement 25 % des gens qui ont faim se tournent vers ce type d'aide d'urgence. Donc, il y a des personnes qui ne réussissent pas à bien manger, mais qui n'ont quand même pas soit le réflexe ou le courage. Parfois, il y a plusieurs choses qui nous empêchent d'aller vers les banques alimentaires. Et il y a plus en plus de personnes qui se tournent aussi vers les cuisines collectives pour reprendre du pouvoir sur leur alimentation. Avoir faim est un enjeu, oser se rendre dans une banque alimentaire en est un autre, comme je disais. Et aujourd'hui, donc le jour où la lettre a été publiée, c'était la journée nationale des cuisines collectives.
Donc le 26 mars.
Exactement, le 26 mars. Donc l'auteur nous dit qu'on comptait plus de, ou on compte encore parce que ça fait pas si longtemps que ça, 1300 groupes actifs à travers la province qui préparent près d'un million de repas par année, donc des groupes ou des cuisines collectives. Et dans chaque groupe, des personnes mettent en commun leur temps, leur argent, mais aussi leurs compétences pour préparer des plats sains, économiques et appétissants que ces personnes-là vont pouvoir apporter chez elles pour nourrir leur famille. Mais il y a 60 % des organismes qui ne peuvent pas intégrer toutes les personnes qui souhaitent participer à un groupe de cuisine collective, donc qui n'ont pas assez de place pour recevoir tout le monde qui serait intéressé en raison d'un sous-financement de plus de 10 millions de dollars à l'échelle nationale. Et ce qu'il nous dit, c'est que refuser des personnes dans ces groupes, c'est déchirant pour eux. Contrairement à une croyance populaire erronée, mais persistante, les cuisines collectives ne s'adressent pas uniquement aux personnes en situation de vulnérabilité financière. En fait, elles s'adressent à toute personne qui veut cuisiner pour améliorer sa qualité de vie et celle de sa famille. Tout en ayant la possibilité de s'impliquer, que ce soit individuellement ou collectivement, dans sa communauté. Donc, ça peut être pour créer des liens, ça peut être parce qu'on n'est pas super bon pour cuisiner, mais on sait que c'est important de le plus possible cuisiner soi-même pour sa santé. Bref, il y a plusieurs raisons qui font qu'on se tourne vers les cuisines collectives. D'ailleurs, les groupes remarquent qu'il y a une plus grande variété de profils chez les nouvelles personnes participantes, comme des hommes, des aînés, des étudiants, des travailleurs, des nouveaux arrivants, qui sont tous en quête d'un réseau d'entraide et d'intégration. Ça existe depuis plus de 36 ans, donc le mouvement des cuisines collectives, et elles contribuent au développement socio-économique. Elles augmentent le pouvoir d'achat des participants, même si ce n'est pas la raison première. Il y a toujours un aspect financier. On économise quand on cuisine en groupe. Et ça améliore progressivement leur santé physique, on le dit, mais aussi leur santé mentale et sociale. Ça peut être pour échanger des astuces, découvrir des nouveaux ingrédients, décoder les étiquettes parfois, apprendre à mieux gérer son budget, évidemment, ou encore dresser une liste d'épiceries. Les cuisines collectives sont des véritables leviers de dignité, d'autonomie et de solidarité. Dans un groupe de cuisine collective, on ne va pas juste cuisiner, on socialise et on lutte également contre l'isolement. Donc, le regroupement des cuisines collectives du Québec est fier d'organiser en avril le tout premier sommet national sur le droit à l'alimentation. Donc, ça, c'est pas un poisson d'avril, là. C'est vraiment quelque chose qui va se tenir ce mois-ci. Ça vise à proposer des solutions pérennes, donc durables et concrètes, et en ayant notamment l'objectif de pouvoir déposer une loi cadre sur le droit à l'alimentation. Donc, pour que ça soit vraiment encadré par la loi. Pour une plus grande sécurité, donc on arrive avec la pérennité là, de la chose. Ça fait des décennies que les cuisines collectives offrent une réponse durable et humaine à des enjeux alimentaires de plus en plus criants. La pérennité de leurs actions est cependant compromise par l'absence de reconnaissance et de financement par le gouvernement. Il est nécessaire que ces organismes soient officialisés comme un investissement préventif en santé publique et obtiennent un financement adéquat pour ne laisser personne sans soutien. L'auteur conclut en disant « Bien plus qu'un service communautaire, les groupes de cuisine collective représentent un moyen que les gens se sont donné pour aller au-delà de la charité et reprendre du pouvoir sur leur alimentation. En cette journée nationale des cuisines collectives, mettons les bonnes valeurs au menu et assurons-nous d'offrir une réponse durable et humaine aux enjeux alimentaires vécus par des milliers de personnes au Québec. » Donc, moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est dit dans cet article-là.
Et c'est un article qui s'inscrit, je pense, dans tout ce qui est dans l'actualité concernant les organismes communautaires qui sont à bout de souffle, le mouvement, le communautaire à bout, là, qui dénonce le manque de financement.
Tout à fait, j'ai vu plusieurs articles à ce sujet-là. Donc, la semaine dernière, c'était lundi, je pense, il y a des organismes communautaires qui ont manifesté. Parce qu'ils sont vraiment à bout, comme vous dites, c'est vraiment le titre de leur campagne. Puis il y a plusieurs cuisines collectives qui ont participé à ce mouvement-là. Moi, je ne sais pas si je pense que je vous en ai déjà parlé. À chaque année, à ma fête, mon papa m'offre un cadeau, un panier de légumes.
Ah, c'est un beau cadeau.
Toutes les deux semaines, je reçois. C'est un organisme communautaire. C'est la cuisine collective à Hochelaga-Maisonneuve. Il y a quelques années, a démarré un jardin, un potager urbain. Et donc, ils vendent leurs légumes. Sous forme de panier, donc estival, c'est ce qui fait qu'à chaque semaine, on a ce qui est prêt cette semaine-là. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va avoir, mais c'est un organisme qui est vraiment super important dans mon quartier, la cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve. Ils ont maintenant aussi une épicerie solidaire, donc où on paye selon notre revenu. Ces paniers de légumes-là. Pour chaque panier qu'on achète pour l'été, il y a un panier qui est donné à une famille qui ne peut pas se le payer. Donc,
service essentiel.
Ça va au-delà de juste la cuisine collective. Quand il y a un organisme comme ça qui se crée, ça rayonne de toutes sortes de façons pour aider le quartier.
Oui, et je voulais ajouter à propos du communautaire à bout, là, c'est vraiment un mouvement de grève historique au Québec. Ça a commencé le 23 mars et ça se poursuit jusqu'au 2 avril. Et ce mouvement mobilise plus de 1800 organismes pour dénoncer le sous-financement chronique. Et si on n'avait pas le communautaire, on ferait dur. Isabelle, donnez-nous un peu de courage et de sucre aussi avec une recette qui vient de Sœur Angèle.
Oui, c'est ça. C'est une recette légèrement différente, mais je suis certaine, je ne l'ai pas essayée, là, je vous le dis, c'est paru dans mon fil cette semaine. Donc, les recettes de Sœur Angèle, je n'ai jamais goûté une recette de Sœur Angèle qui n'était pas bonne. Et c'est toujours facile aussi à faire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, Hélène, des grands-pères dans le sirop?
Je pense
peut-être
pas.
Cabane à sucre,
ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des beignets dans le sirop?
C'est des boules de pâte qu'on fait cuire dans le sirop. En fait, moi, j'avais goûté beaucoup plus souvent à des grands-pères dans le bleuet. Des grands-pères au bleuet, plutôt. C'est un peu le même principe. C'est une recette traditionnelle de ma famille. Puis, parce qu'on vient de l'Abitibi, puis les bleuets de l'Abitibi, n'en déplaise aux gens du Lac-Saint-Jean. C'est les meilleurs bleuets.
Ce sont les meilleurs, oui. Parce que moi, j'ai habité 5 ans en Abitibi et j'ai participé à plusieurs cueillettes de bleuets. C'est longtemps parce qu'ils sont petits, mais ils sont délicieux.
Ils sont vraiment, c'est ça, c'est effectivement. Et donc, la recette de Sœur Angèle, vous allez voir, là, c'est quand même vraiment facile. Puis, vous allez comprendre tout de suite c'est quoi le concept des grands-pères. Donc, c'est une tasse de farine.
Une tasse de farine.
Une cuillère à thé ou 5 ml de poudre à pâte.
Mm-hmm.
Une demi-cuillère à thé de sel. Vous pouvez aussi aller avec une grosse pincée. Une demi-tasse de crème sûre. Et c'est là qu'elle se démarque des recettes traditionnelles. 2 œufs. Donc, ça, c'est pour la pâte.
Okay.
Généralement, les recettes traditionnelles, c'est du lait, mais la crème sûre, je suis sûre que ça apporte un petit quelque chose d'intéressant,
ah,
peut-être
oui.
aussi dans la texture,
de
puis dans
moelleux.
La facilité aussi
ouais.
de mélanger, parce que dans les recettes, là, comme les recettes de Ricardo, mettons, du site là, de l'érable du Québec, ils vont mettre du lait et du beurre, mais je trouve que la crème sûre, ça va être probablement plus facile à préparer. Pour la sauce, entre guillemets, on a une tasse et demie de sirop d'érable.
Oh, de vrai sirop d'érable.
Oui. Donc, même quantité de sirop d'érable et d'eau.
OK. Et donc, alors, une tasse et demie de vrai de sirop d'érable et non de sirop de poteau. Et puis, la même quantité en eau, c'est ça que vous dites?
Oui, une tasse et demie d'eau.
C'est tout?
La même chose. C'est tout. Donc, on commence par préparer la pâte. Donc, dans un bol, on tamise la farine avec la poudre à pâte et le sel. On ajoute la crème sûre et les œufs et on mélange jusqu'à une consistance homogène. Et à côté de ça, dans une casserole à fond épais, parce qu'on va faire bouillir le sirop d'érable, on met le sirop d'érable et l'eau et on les mène à ébullition. Et à l'aide d'une grosse cuillère, on fait tomber des boules du mélange dans le sirop bouillant.
Oh.
Et c'est pas plus compliqué que ça. On couvre, on laisse mijoter de 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que les grands-pères remontent à la surface. Et on sert le tout avec le sirop chaud de la cuisson. C'est délicieux. Moi, personnellement, je trouve que c'est encore meilleur avec des bleuets, mais peut-être parce que c'est ma grand-mère qui les préparait, puis mon père le fait encore.
Oui, c'est sentimental tout ça, là. Mais ça doit être bon également.
Ma grand-mère le faisait avec les bleuets, justement, mais on n'a jamais appelé ça les grands-pères.
Non? C'était des grands-mères dans le bleuet?
On appelait ça d'un pudding, je ne sais pas trop, je me souviens pas.
On a les grands-pères au sirop d'érable, on peut avoir les grands-mères au bleuet.
Mm-hmm. Oui, ben oui, pourquoi pas.
Ricardo appelle ça des dumplings au bleuet.
Ah oui, okay.
La version là, des grands-pères au bleuet. Mais c'est
moins attirant.
C'est une recette traditionnelle québécoise, mais aussi acadienne. Apparemment qu'on peut aussi appeler ça des pépères, plutôt qu'à des grands-pères, par exemple, en Beauce.
Des pépères?
Oui, des pépères au bleuet.
Ah, des pépères!
Au sirop, pardon, okay. Des pépères dans le sirop. Et apparemment qu'on appelle ça des grands-pères dans le sirop, soit parce que les grands-pères qui n'avaient plus de dents pouvaient facilement les manger, et parce que les boulettes un peu ridées, fripées, rappelaient les traits d'un visage âgé. Ou la deuxième, moi, c'est celle qui me plaît, c'est que c'était préparé en partie par les grands-pères parce qu'on leur confiait la tâche facile de brasser le sirop d'érable dans le
chaud. Oui. Bon, ben on opte pour cette définition-là, cette explication-là, parce que les grands-pères, pas de dents, puis ridés, là... Mais ce sont des réalités, mais c'est moins appétissant. Merci beaucoup, Isabelle.
Exactement.
Les grands-pères au sirop d'érable de Sœur Angèle, ça nous donne le goût d'en faire et surtout d'en manger. Alors, vous restez avec nous, Isabelle?
Oui, bien sûr.
Oui, on va se rappeler des souvenirs avec Serge qui va nous parler des Jeux olympiques de 1976. 50 ans déjà, on va commencer avec une chanson de René Simard. J'en dis pas plus pour l'instant.
Oui.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Bienvenue à Montréal, vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive nos cœurs joyeux, la reine des Amériques. Vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
il choisit des
Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
vive à Montréal,
années se donnait dans cette interprétation.
Eh oui.
Alors, dites-nous tout, Serge, à propos de cette chanson et de l'autre chanson dans cet article que vous avez trouvé dans la Presse Plus, signé Mario Girard.
Oui, du 11 mars dernier. Alors, nous sommes à l'été 1975, à quelques mois de l'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Le maire Jean Drapeau, qui aime se mêler de tout, n'est-ce pas, se met à la recherche d'une chanson pour inviter la terre entière à venir nous voir. Il se tourne alors vers Guy Cloutier, gérant de René Simard. Ce dernier est la plus grande vedette au pays à ce moment-là. À 13 ans, il a déjà dans sa poche le prix d'interprétation du Festival de la chanson de Tokyo. « C'était une très grosse période pour moi », raconte René Simard. « Je voyageais beaucoup, je suivais des cours de danse, j'apprenais l'anglais et l'espagnol. C'est ainsi que je me suis retrouvé avec Jean Drapeau, qui m'a montré la maquette du stade. » Ce sourd-doué entre en studio et enregistre « Bienvenue à Montréal »,« Welcome to Montréal », d'après une rhapsodie d'André Mathieu et des paroles de Claude Lacombe. Le disque est lancé en septembre 1975. La réaction est décevante. On trouve que la chanson a des allures de ritournelle publicitaire, ce qui est un peu vrai. Mm-hmm. On peut penser que c'est l'époque des petits puddings de Laurent Saccard, là, ça peut faire penser...
Qu'est-ce qu'il fait donc?
Oui. Alors, les journalistes ne se privent pas. Évidemment, le Montréal Star, journal anglophone, s'en donne à cœur joie. Il dit un flop monumental. Bon. Peu importe, le jeune chanteur est invité à plusieurs grandes émissions pour interpréter cet air tonique. Nous sommes allés à Paris et on m'a présenté à Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, en lui disant que j'étais la personnalité québécoise qui interprétait la chanson-thème des Jeux olympiques de Montréal. M. Faure s'est approché de moi, m'a pincé une joue et a dit « Oh, ce qu'elle est mignonne, cette petite! »
Oh, on pensait que c'était une fille.
Ben oui. Mais tu sais, à cet âge-là, c'est...
Oui, puis il portait aussi une coiffure à la Mireille Mathieu.
Oui, ben oui, comme
oui,
ça, là.
Ça.
C'était l'oiseau.
Oui, ben c'est ça.
Petit cheveux long.
Pendant ce temps à Montréal, les auteurs et compositeurs déplorent d'avoir été écartés d'un processus démocratique pour la création de la chanson officielle. Pour se sortir de ce pétrin, le comité d'organisation des Jeux olympiques de Montréal lance un grand concours pour trouver une chanson d'adieu. Alors au moins, il y aura celle-là, ouais.
Une chanson d'adieu des Jeux.
Des Jeux à la fin, pour présenter à la fin des Jeux.
Oui, oui, oui. À la cérémonie de clôture.
Oui, il y a toujours une chanson d'ouverture puis d'adieu. On a eu ça à Milan, là. On a vu une chanson d'ouverture puis la chanson d'adieu.
OK.
Alors, Stéphane Venn est choisi pour présider un comité de 16 personnes. Le concours vise les créateurs professionnels à qui on demande une maquette enregistrée en studio. Le jury reçoit plus de 300 propositions.
Ah, quand même!
Oui, beaucoup de gens ont été intéressés. Une première sélection de 25 chansons est faite. Parmi les auteurs et compositeurs en lice, on trouve des noms prestigieux comme François Dompierre, François Cousineau, Luc Plamondon, Pierre Letourneau, Pierre Bourgault, Hervé Brousseau et plusieurs autres. Alors que les Jeux olympiques sont amorcés, ils se déroulent du 17 juillet au 1er août, on présente la liste des 10 chansons finalistes. Celles-ci sont diffusées tour à tour à l'émission spéciale que Lise Payette présente tous les soirs durant les Jeux. Le 26 juillet, on annonce le titre de la chanson gagnante. Il s'agit de...
Je t'aime.
Je t'aime. Sur des propos, des paroles de Jean Robitaille, déjà connu pour son succès des Croissants de Soleil et une musique de Christian Saint-Roch. Ce dernier, M. Saint-Roch, gravite autour du Willemar Blues Band, qui comprend Pierre Nadeau, Denis Farmer, Michel Séguin, Robert Stanley, Ron Bankley, Lise Cousineau, Christian Robichaud et plusieurs autres. Dans ce groupe élastique, il y a aussi Estelle Sainte-Croix, une interprète à la voix chaude et soyeuse très demandée. C'est vers elle que se tournent Christian Saint-Roch et Jean Robitaille. Certains membres du Willemar vivaient ensemble dans une maison de Notre-Dame-de-Grâce, relate la chanteuse. On avait un studio au sous-sol, Beaudommage et Harmonium sont venus y travailler. Jean Robitaille a l'idée de concevoir un texte en disant « Je t'aime » en 26 langues. C'était un challenge de faire rimer « Je t'aime » avec les sonorités, a-t-il dit, sonorités d'autres pays. Et ce qu'il a confié à Anne-Marie Dussault sur le plateau de 24-60. L'extrême beauté du texte, la musique attendrissante de Christiane Saint-Roch et la magnifique voix d'Estelle Sainte-Croix ne laisse planer aucun doute, c'est la meilleure chanson. La version finale est enregistrée avec un orchestre à cordes. J'ai rechanté la chanson, mais Christian n'aimait pas ma voix, se souvient Estelle Sainte-Croix. Ben oui. Il voulait me faire manger du Vix à la cuillère. J'ai refusé.
Franchement.
Oui, et c'est ma version de la démo qui est sur le disque, nous dit-elle. L'album vinyle contenant les 10 chansons gagnantes est aujourd'hui un objet de collection, on l'imagine bien.
Mais manger du Vix, ça donne quoi comme voix?
Ben, ça doit être bizarre. Ben, ça dégage, ça réchauffe la voix, ça.
On l'essayera pas.
Non. Si l'auteur et le compositeur partagent un prix de 20 000 $ l'interprète empoche un magnifique cachet de... Devinez donc le montant.
Un cachet d'aspirine?
Très peu. Un cachet d'aspirine après avoir mangé du Vix.
100 $ imaginez-vous.
Des peanuts. Ouais.
C'était très motivant dans le temps, dit-elle en riant. Fait étrange et triste, aucune des deux chansons n'a été interprétée lors des cérémonies de la 20e Olympiade, qui ont lieu dans un stade inachevé. Je n'ai pas d'amertume, dit René Simard, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça, vivre l'expérience d'une cérémonie d'ouverture d'Olympique et de fermeture d'Olympique. Malheureusement, l'oiseau n'a fait que survoler le stade. Avec le recul, on peut dire que tout cela a été drôlement géré.
Oui, l'oiseau, c'est un clin d'œil à René Simard, qui a connu du succès avec la chanson « L'oiseau ».
Absolument.
Son premier hit.
Ouais. Alors, lors de la cérémonie de clôture, le 1er août, marqué par la présence d'un nuvite qui s'est faufilé, vous en rappelez?
Ça me dit quelque chose, oui.
Et qui s'est faufilé parmi les danseuses. Estelle Sainte-Croix s'est...
Des images!
Oui. Estelle Sainte-Croix... Mais heureusement, la reine n'était plus là à la fermeture. Elle était juste à l'ouverture.
Choquant!
Oui. Estelle Sainte-Croix s'est retrouvée dans les gradins derrière quelques membres des Rolling Stones.
Ah, chanceuse!
Ouais, on pensait qu'on allait faire entendre la chanson pendant la cérémonie. Finalement, ils l'ont diffusée alors que les spectateurs quittaient le stade.
Ben,
décevant.
Ben, je comprends que c'est
plate,
décevant.
Plate.
Mais nous, on va lui donner toute la lumière qu'elle mérite et on va l'écouter.
Je t'aime, achete ma sou, se weine, yo amorte. Pour toi, tout mon pays, ami, cœur et saison, pour t'accueillir ici à sa façon. Je t'aime, j'aime qu'on n'agligue ma guide. Je t'aime, t'es bien le bleu, Coram qui est né Sarapon. Avec toi j'ai grandi, avec fort et l'exploit. Aujourd'hui l'univers est sous mon toit. Je t'aime. Io te amo, je t'aime, io te quiero. Demain tu vas partir, encore en souvenir, ma chanson d'amitié au monde entier. Chanson d'amitié au monde entier.
C'est beau, ça!
Oui. On l'entend plus, hein, cette chanteuse-là?
Non, pas du tout. On l'a entendu avec « Je t'aime », mais ouais, sinon, pas vraiment. On disait que vous lisiez qu'elle a fait partie du Villemar Blues Band,
oui, oui, oui. Mm-hmm.
Oui, qui était venu d'ailleurs dans mon coin, dans l'Anse de Vaudreuil, pour louer le chalet de mon père.
Oui.
Et ça ne s'est pas produit parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait loué, en tout cas, dans les années 70-80. Et puis, on continue avec vous, Serge, toujours avec le thème des Jeux olympiques de Montréal, l'exposition Montréal 1976, une épreuve olympique.
Oui. Alors, ce sera du 27 mars, c'est commencé, jusqu'au 13 septembre 2026. Alors,
au musée McCord.
Oui, au musée McCord, exactement, oui. Alors, c'est un communiqué de presse qu'on a reçu et que je vous lis, que je partage avec vous. À l'occasion du 50e anniversaire... À l'occasion du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976 à Montréal... Le musée porte un regard rétrospectif inédit sur cet événement qui a marqué l'histoire et redéfinit l'image de la métropole. Alors, à travers une remarquable sélection d'objets, de documents, d'œuvres sur papier, il y a des affiches, des archives, des caricatures, des photographies, il y a des vidéos aussi, des vêtements et d'accessoires, Montréal 1976, une épreuve olympique, revisite les coulisses et le succès de cet événement déterminant pour Montréal. L'exposition aborde notamment les nombreux défis qui ont marqué l'organisation des Jeux, véritable course contre la montre, aussi créative que controversée, ainsi que l'important héritage urbain, architectural et sportif qui en résulte. Ce projet s'inscrit dans la programmation officielle de célébration du 50e anniversaire des Jeux olympiques de 1976. Alors... Vous savez que les Jeux olympiques, j'ai réalisé en lisant l'article, j'ai dit c'est vrai. Ça a été le dernier événement planétaire organisé à Montréal, les Olympiques. Il y a eu l'Expo 67, les Olympiques, puis après ça, ben, il y a eu d'autres événements. Mais avec planétaire, là, comme celle-là, comme les Jeux olympiques le sont, ça a été la dernière fois.
Ça fait déjà 50 ans.
Oui, oui, oui. Ça a été une aventure exceptionnelle, à la fois semée d'embûches, évidemment, comme on le sait tous, et couronnée de succès. Fort de sa mission centrée sur la mise en valeur de nos récits et de notre patrimoine, ainsi que de ses remarquables collections, McCord Stewart ne pouvait manquer de rendre hommage aux personnes visionnaires, bâtisseuses et talentueuses qui se sont mobilisées pour faire vivre, tant aux athlètes qu'au public, ces moments mémorables que sont les Olympiques. L'exposition permet aussi de découvrir comment la préparation des Jeux de 1976 fut un véritable laboratoire de design urbain, social et identitaire. Ainsi, la conception et la reconnaissance internationale du logo Montréal 1976, l'ampleur de la production graphique qui en découle et l'audace architecturale du stade, du vélodrome et du village olympique, devenus des emblèmes de la métropole, sont présentés à travers une imposante sélection de documents tirés des archives du musée. On oublie ça souvent, mais le stade olympique, même si on en dedans conclut un petit peu, là, quand quelqu'un arrive à Montréal, un touriste, il veut visiter ça.
On a une relation haine-amour.
Oui, ben à peu près, oui. Mais un touriste qui arrive à Montréal, ben, tu vois ça du haut des airs hein, quand tu arrives en avion. Ça, et l'oratoire Saint-Joseph.
C'est vrai.
Oui, oui.
Et on peut monter aussi dans le stade.
Absolument,
Est-ce que vous l'avez déjà pris, le funiculaire?
Ben, je suis allé quand j'ai un ami suédois qui est venu à Montréal. Il nous a demandé en arrivant, je veux aller voir ça. Bon, on est allé. Ouais. On a monté.
On n'est pas nécessairement touriste dans sa propre ville.
Les,
hein?
les deux amis avec moi, Claudine et son ami Richard, on n'était jamais montés là non plus.
Mm-hmm.
Donc, on est
monté avec... Il a fallu quelqu'un qui vienne d'ailleurs.
Ben oui, ben, c'est souvent le cas. Hein.
Conçu par Roger Taillebert. Hein,
oui, absolument. Alors, dans Montréal 1976, une épreuve olympique, on découvre les défis et les tensions qui marquent la préparation des Jeux, le nettoyage olympique mené par le maire Jean Drapeau. Ça, on l'oublie souvent, là. Il y a eu un harcèlement des communautés homosexuelles qui étaient beaucoup au centre-ville et qu'ils ont forcé à déménager vers l'est de Montréal, dans le village gay actuel.
Oui.
Des arrestations de personnes en situation d'itinérance. Ils ne voulaient pas voir d'itinérance au centre-ville, dans les lieux où les athlètes iraient et les personnalités iraient. Le retrait d'affiches publiques et le démantèlement de l'exposition Corridor. Ça, je me rappelle...
Corridor,
oui. C'était une exposition qui était sur la rue Sherbrooke, d'ouest en est.
On est sur la rue Sherbrooke.
Oui, absolument. Alors, il y avait tout le long du parcours des affiches... Des photos représentant ce qu'avait été la rue Sherbrooke avant tous les travaux de démolition qu'il y a eu, puis on a coupé tous les arbres de la rue Sherbrooke. Hein. La rue Sherbrooke, là, d'ouest en est, était bordée d'arbres centenaires.
Mais pourquoi on a fait ça?
Parce qu'on construisait des immeubles, puis il n'y avait pas assez de place. Les rues étaient petites, c'était pour des carrioles avec les chevaux. Quand les voitures sont arrivées, ben, ça prenait plus, les camions de livraison, ça prenait plus d'espace. Donc, tu n'avais plus de place pour les arbres. Donc, ils abattaient les arbres, ils élargissaient la rue.
Triste.
Ah, oui, oui. Alors, il y avait cette
exposition.
Oui, il y avait cette exposition-là, corridor. Et puis, je me souviens, ça avait fait un tollé, tu comprends, écoute, de démolir ça.
Donc, il y a une exposition sur. Cette démolition-là qui est en cours au Musée McCord aussi,
oui,
en parallèle avec l'autre exposition.
Ils en parlent.
OK, il y en est question.
Oui, oui. Il y a eu également le contexte géopolitique de l'époque, on est en 76, illustré par le déploiement de 18 membres des forces armées et policières, le boycottage de la plupart des pays africains par rapport à l'apartheid de l'Afrique du Sud, si ma mémoire est bonne, et le refus de la participation de Taïwan, parce que la Chine était là.
L'envers du décor. Hein? L'envers c'est souvent comme ça en ce qui concerne les Olympiques, là, des gros ménages, des gens qui sont tassés, des effacements.
Et en parallèle de l'exposition qui va être présentée, qui est présentée en salle actuellement, l'exposition numérique au-delà des Jeux, l'histoire olympique de Montréal, sera mise en ligne en juillet 2026. Conçue pour les jeunes de 12 à 17 ans, ce parcours virtuel invitera à une exploration accessible et attrayante des Jeux olympiques de Montréal de 1976. Leur identité visuelle audacieuse, les innovations architecturales, les défis qui ont marqué leur préparation et sans oublier les performances d'athlètes qui ont captivé le monde. Je vous parie que... Il y aurait quelque chose sur Nadia Comaneci.
C'est ce que j'allais dire. Ben, je me disais, il y a eu tellement de... c'était la star des Jeux olympiques de 1976. Ouais. Mm-hmm. C'est la star. Ouais. Et il y a plusieurs personnes qui ont... plusieurs personnes. Des femmes qui ont accouché et qui ont prénommé leur petite fille Nadia, qui, ont 50 ans cette année. Il me semble que ce serait une bonne idée de donner des laissés-passer à toutes les Nadias qui ont 50 ans cette année.
Oui, c'est vrai.
Hein?
C'est vrai.
On va appeler le directeur du musée pour lui proposer.
Alors, proposant des contenus inédits, cette exposition numérique met en lumière les moments forts d'un événement majeur de l'histoire olympique canadienne. Alors, ce projet a été réalisé grâce au soutien de Musée numérique Canada.
Bon, alors, vous nous donnez le goût d'aller explorer, découvrir cette exposition qui s'appelle Montréal 1976, une épreuve olympique, et c'est en cours au Musée McCord jusqu'au 13 septembre. Musée McCord qui est sur Sherbrooke aussi.
Sherbrooke, passé McGill.
Oui. Dans le corridor, finalement?
Absolument, oui.
J'ai trouvé une manière.
la chanson Cimetière de Grand Eugène.
Quelques brèves avec vous, Serge Bradet. Isabelle Falardeau est toujours au bout du fil?
Oui, je suis toujours là.
Parfait. Alors, grande question existentielle, Serge, pour commencer.
Oui, oui, oui. Les jumeaux ont-ils les mêmes empreintes digitales? Vous êtes tous déjà posé la question, j'imagine.
Ben moi, je serais porté à dire non. Money.
Oui. Effectivement, c'est non. Les empreintes digitales se forment avant la naissance. Elles peuvent être modifiées par différents facteurs, comme la pression sanguine, qui est différente d'un jumeau à l'autre, mais aussi par un simple frottement du doigt de l'enfant sur son cordon ombilical. Le scientifique Francis Galton a estimé la probabilité que deux personnes possèdent les mêmes empreintes digitales. Il a estimé ça, lui, à 1 sur 64 milliards. Bonne chance.
Oui, bonne chance. Bonne chance.
Une autre question que vous êtes sûr de demander, pourquoi est-ce qu'on appelle la musique de chambre la musique de chambre?
Oui, pourquoi?
Pourquoi? La musique de chambre est un genre de musique classique, ma chère, composée pour un petit nombre d'instruments. Son nom provient du fait qu'elle pouvait être jouée dans la grande chambre d'un palais à l'époque de la Renaissance.
Ah, je suis certaine que notre prochaine invitée, Dina Gilbert, aurait eu la bonne réponse,
elle qui est
chef d'orchestre.
Maintenant aussi, ça c'est une question que moi je me suis posée. Est-ce qu'il y a moins de quantité de pétrole déversée en mer maintenant qu'il y a que dans le passé?
Ouais.
Alors, la plupart d'entre nous se souviennent des images tristement spectaculaires de vastes étendues d'océans recouvertes de pétrole ou d'animaux piégés dans ce liquide épais et sombre. Ça, c'est déprimant de voir ça, c'est triste, là, t'sais. Désastreuses pour l'environnement, ces marées noires sont aussi extrêmement coûteuses à nettoyer. Selon le site Our World in Data, la plupart des ans, au cours de la décennie 1970, plus de 300 000 tonnes de pétrole ont été déversées par des bateaux-citernes. 300 000.
C'est énorme.
C'est énorme, énorme. Toutefois, depuis le début des années 2000, les quantités de pétrole déversées accidentellement en mer ont considérablement chuté. L'an dernier, en 2025, 10 000 tonnes ont été déversées, soit moins d'un 30e de la quantité recensée au cours d'une année typique des années 70. Quand même, un beau progrès. Cette baisse s'est produite alors que la production et la consommation de pétrole sont en augmentation constante. Donc, je pense que les mesures de sécurité se sont beaucoup resserrées.
Ouais.
Oui, oui, oui.
Alors, je termine avec une nouvelle qui concerne Céline Dion, dont on parle depuis quelques jours. Elle annonçait son retour sur la scène à Paris. Ça va se faire en septembre et en octobre. Et on apprenait aussi qu'elle va proposer une nouvelle chanson signée Jean-Jacques Goldman qui va sortir le 17 avril. Et ce matin, on nous annonce le titre « Je nage vers toi ».
Oh!
Poisson d'avril.
Oh!
Mais c'est vrai qu'il y aura une nouvelle chanson composée, écrite par Jean-Jacques Goldman, qu'on va découvrir le 17 avril, mais j'avais envie d'inventer le titre en ce 1er avril.
Mais comme vous voyez, je suis très naïf, hein, j'embarque.
Mais j'adore ça quand ça mord. En tout cas, c'est la journée du poisson d'avril.
Oui.
Tous les bons tours sont permis. Les mauvais tours, on peut s'en passer aussi.
Il faut rire.
Quand on connaît notre monde, sait jusqu'où on peut aller. Merci beaucoup, Serge Bradet. Merci beaucoup, Isabelle Falardeau. Et puis, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Et là, il n'y aura plus de poisson d'avril.
J'espère.
Bye.
Bye-bye.
Restez avec nous. On va écouter du Claude Dubois chanter. Puis ensuite, on va parler du Claude Dubois instrumental avec Dina Gilbert.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
J'ai besoin de danser avec le monde entier. Je veux pas besoin pour vivre sur terre d'essayer que les êtres ne manquent jamais de rien. Besoin de travailler rien que pour vous donner, car je ne pourrais pas exister. J'ai besoin pour vivre sur terre d'aimer et d'être aimé, de prendre et de donner. J'ai besoin de penser et aussi de rêver, celle qui me fait tant aimer. Yeah!
Besoin pour vivre, Claude Dubois. Est-ce qu'il a besoin de présentation, ce Claude Dubois qu'on aime tant et ce depuis plusieurs années? Et ça m'étonne. C'est la première fois, je pense, en tout cas, Dina Gilbert saura me le dire, que Dubois devient symphonique. Bonjour, Dina Gilbert.
Bien, qu'il devient symphonique, en effet, sans sa présence à oui. La voix. Je pense que oui, bien sûr, c'est une oui. Première dans ce cas-là. Oui.
Parce que les pièces seront présentées instrumentales. Là. Exactement. Il n'y aura pas de Claude Dubois sur la scène.
Non. Mais par contre, il va être présent dans tout parce qu'il va avoir des petites pensées qui vont être ajoutées, qu'on va pouvoir voir un petit peu dans les projections. Mais c'est surtout que c'est tellement une voix mémorable que même avec toute cette nouvelle mouture-là instrumentale, orchestrale, on l'entend quand même. On l'entend, cette voix-là qui est unique.
On ne peut pas ne pas l'entendre.
Oui. Donc, je pense que ça va même porter les gens peut-être à fredonner par moment. Et ça va. T'sais, dans le sens que qu'est-ce que ça va être la première fois qu'on présente un concert. Mais pour moi, ça serait une réussite, enfin un succès, si on voit que dans quelques-unes des chansons habituelles que Claude chante en spectacle, que le public est en train à s'entraîner à justement chanter avec lui, ben j'ai l'impression qu'on va peut-être entendre un peu ça à la Maison symphonique. Puis ça me dérange pas. Ça va être une belle chose, je pense.
Parce que là, Dina Gilbert, vous êtes chef d'orchestre. Vous allez diriger cet orchestre de 65 musiciens?
Oui, c'est quand même... J'avoue que je n'ai pas compté
chacun, mais oui, c'est plus de 65.
Tout à fait, ouais, c'est quand même bon.
Vous allez aussi devoir peut-être diriger tous les gens qui seront dans la salle de la Maison symphonique. Ouais. Oui, donc vous êtes ouverte à ça.
Ah, ben moi, je suis prête à ce genre d'expérience-là. Tu sais, on l'avait vécu. C'est pas ma première expérience avec des projets de GSI Musique. J'ai fait les concerts d'harmonium symphonique. Et justement, à un moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait des moments clés dans le spectacle où ça allait de soi, puis on créait ces moments-là. Puis c'est ça que je trouve beau avec l'expérience de concert. Oui, on a un super CD présentement qui est rendu à 40 000 copies. C'est extraordinaire. Mais l'expérience de vivre ça dans une salle de concert, c'est ça. C'est de voir tous les gens qui sont autour de nous, qui ont le même intérêt, la même passion pour une voix extraordinaire, pour un compositeur extraordinaire. Puis de voir comment est-ce que cette expérience-là va être différente de le vivre ensemble. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de voir. Ça peut juste se concrétiser tout ça avec le public quand on va le voir.
C'est sûr que les gens vont fredonner, siffler, parce qu'on les connaît, ils font partie de nos gènes, en tout cas pour une certaine génération, mais ils continuent de faire des concerts, Claude Dubois.
Oui,
et ils attirent aussi des jeunes, les grands-pères qui amènent leur petit-fils, leur petite-fille. Dina Gilbert, je vous ai pas présenté en bonne et due forme, là. Vous êtes une chef de plus en plus connue. connue. Vous êtes la chef associée de l'Orchestre symphonique de Montréal. Vous êtes directrice musicale et chef du Walla Walla Symphony dans l'État de Washington. Vous êtes aussi chef attitré des Grands Ballets canadiens de Montréal. Vous êtes une femme occupée, quoi?
Assez occupée. Assez, oui. Ouais, souvent dans mes valises et tout, mais en même temps, c'est extraordinaire parce que j'ai la chance de diriger une grande variété de répertoires puis de travailler avec différents musiciens qui m'inspirent beaucoup. Donc,
oui, ça, autant ça classique partout. Que populaire.
Exact.
Ça a toujours été comme
puis
ça.
Aussi avec ballet, avec film, avec... Donc, moi, j'aime vraiment ça, pouvoir, c'est ça, m'inspirer de différentes formes d'art, de différents contacts, puis de voir après ça à quel point... À travers toutes ces expériences-là, le public est touché par une expérience symphonique. Mm-hmm. Puis ça, c'est ça qui m'interpelle beaucoup. C'est de voir à quel point ça peut toucher, d'entendre tous ces instrumentistes qui sont sur scène, qui sont capables de canaliser une émotion, un souvenir, une mémoire collective qu'on a, ouais. comme dans ce genre de concert-là. Donc, c'est ça vraiment qui me porte là, dans mes décisions de différents concerts.
Alors, il y a eu le CD qui est toujours en vente, oui. qui contient 31 chansons de Claude Dubois, version instrumentale. Ouais. C'est vous qui dirigez le projet oui. pour le CD aussi?
Oui, c'est moi qui ouais. avais dirigé ça. C'était vraiment fabuleux. On avait 3 jours seulement pour enregistrer, en disque et tout ça. Claude était bien sûr très présent, très impliqué dans le processus. Il était dans la maison symphonique et on pouvait discuter pendant les pauses, on pouvait altérer certaines choses à sa demande et tout. Donc, il a vraiment été extrêmement présent dans tout ce processus-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment la voix, en guillemets, la touche de Claude Dubois. Là. Même s'il n'est pas présent sur scène, il faut comprendre qu'il a vraiment pris une partie, oui. là, il a pris ce projet-là à cœur puis qu'il l'a drivé du début à la fin. Là,
il y a vraiment. Un saut d'approbation oui. ici, ah, signé Claude oui. Dubois. Mais tout ça nous met en confiance. Qu'est-ce qui vous a interpellé, vous, Dina Gilbert, quand on vous a invité à diriger Dubois Biographie Symphonique?
Qu'est-ce qui m'a interpellée? Bien, c'est sûr que c'est quelqu'un qui a un leg incroyable là, en termes de 60 ans de carrière. C'est quand ça qu'un artiste est capable, à travers les décennies, d'être autant aimé du public?
C'est rare et c'est plus en plus rare.
C'est extrêmement ouais. rare. Puis d'avoir encore cette facilité-là de faire des concerts, encore aujourd'hui. Moi, je suis flabbergastée oui. de voir à quel point c'est un artiste qui donne beaucoup.
Et c'est un combattant résilient. Il y a eu des problèmes de santé aux cordes vocales.
Tout à fait. Donc, avec tout ça aussi, mais de toujours être... Bien sûr, on lui souhaite un prompt rétablissement ouais. pour tout ça, là, c'est certain. Mais justement, d'avoir quand même continué à donner à son public autant que possible et autant que la santé lui permet, je trouve que c'est un artiste qui est vraiment très inspirant en ce sens-là. Là. Ouais.
Et un autre artiste qui est certainement très inspirant, Scott Price, ah, oui. qui est l'orchestrateur. Oui. Comment vous avez travaillé avec lui?
Ah, Scott, c'est un humain formidable. Tu sais, on s'entend là, quand tu dis « Oh mon Dieu, tu vas travailler ». Moi, je me dis « Je vais travailler avec le directeur artistique de Céline Dion
». Rien de moi.
Et c'est la personne la plus gentille, la plus humble, la plus formidable qui soit, qui est toujours à avoir des discussions avec un brin de curiosité, qui n'est pas dans le jugement du tout, qui est toujours dans la coopération, la collaboration. Moi, je n'ai que de bons mots à dire sur ma collaboration avec Scott Price. Nous, on a travaillé beaucoup ensemble auparavant par rapport aux adaptations. On se parle au téléphone pour... Je voulais savoir exactement poser des questions comme on pose ouais. comme chef d'orchestre avec un compositeur ou un arrangeur avant d'arriver en session. Il m'a donné vraiment beaucoup de ce temps-là. Puis jusqu'à la fin du projet, puis de l'avoir aussi présent pendant les sessions au piano ou encore dans le booth, dans le fond de studio, puis de pouvoir nous donner des notes. C'est vraiment un musicien formidable. Puis pour moi, d'avoir eu la chance de travailler avec lui cette occasion-là, je me dis « wow, c'est vraiment un de mes souhaits vraiment dans ma vie de me dire « mon Dieu, j'aurais eu la chance de voir cette belle personnalité-là puis d'avoir travaillé avec lui ». Donc ça, c'est sûr que c'est un méga incitatif de me dire « wow, je vais avoir la chance de travailler avec deux grands noms, là, vraiment, deux grandes fiertés qu'on a au Québec ».
Oui,
puis après ça, on ajoute à ça ce trio fabuleux, l'Orchestre symphonique de Montréal, qui sont pour moi... l'orchestre le plus fabuleux qu'on a en Amérique du Nord, là, rien de moins, là, avec lesquels j'ai la chance de travailler depuis plus d'une décennie. Donc, être en terrain connu avec ces musiciens-là que je connais bien dans une salle, la Maison symphonique, qui est phénoménale.
Une
acoustique merveilleuse. C'était plein d'éléments comme ça que tu te dis, ça peut juste faire une belle combinaison. Donc, de pouvoir revivre ça maintenant, mais en formule live, avec bien sûr du public dans la salle, ben j'ai hâte de voir comment ça va être reçu, puis on l'espère bien sûr que ça sera reçu avec toute l'âme et l'amour qu'on a mis dans ce beau projet-là.
On va écouter un extrait, on a entendu tantôt Claude Dubois chanter « Besoin pour vivre », on va l'entendre version Dubois, biographie symphonique. « Il y a vraiment une ampleur, un bel enveloppement, du souffle. Ça a été quoi les principaux défis ou les principaux plaisirs, ou les deux en tout cas, liés à la direction d'un ensemble d'une telle ampleur?
Ah, ben en fait, d'une telle ampleur, c'est pas les premières fois. Donc, pour moi, mettons, travailler avec un orchestre complet, c'est super. Je pense que c'était dans le fait que, tu sais, vu qu'on arrive à faire chacune des mélodies, c'est dans la rythmique, dans le rythme de vocal, dans le fond, de trouver ces mélodies-là, c'était de trouver ce groove-là à l'intérieur des mélodies. Je pense que un peu ça qui était un des défis.
Pour qu'on reconnaisse la chanson de Claude Dubois.
Oui, exactement. Ouais. Qu'on puisse faire le lien là-dessus. Mais sinon, comme défi, le défi qu'on avait en CD, c'était vraiment juste le fait qu'on avait, comme n'importe quoi, très peu de temps pour arriver à en disquer tout dans un temps vraiment phénoménal. On l'a dit, donc, 31 chansons en 3 jours, en 6 sessions. Fait que c'est ça, mais en même temps, tu sais, les musiciens de l'Orchestre Symphonique de Montréal sont tellement aguerris à ce genre d'exercice-là que c'était ça l'enjeu. Versus là, en concert, c'est autre chose pour nous.
Là, on va avoir un peu moins de chansons. 31.
On va avoir quand même aussi un petit peu moins parce que c'est ça, quand on veut une durée de concert aussi qui.
Qui choisit qui les chansons? Bien, au premier rabord, le projet, là, au début. Début.
C'est avec Claude. Dubois. Parce que dans le fond, il faut comprendre que biographie, dans le fond, symphonique de Claude Dubois, c'est l'idée qu'à travers ces chansons-là, on passe pas dans une chronologie exacte des pièces, à quelle année elles ont été faites ou écrites. C'est plus par rapport à une ligne de vie d'un poète. On passe, donc, on commence avec Bébé, j'ajoute la toune, on s'en va ensuite à l'adolescence avec Laissez l'été avoir 15 ans. Donc, on passe comme ça.
Est-ce qu'il y a une narration? Il y a quelqu'un qui parle?
Il n'y a pas de narration, mais par contre, il va y avoir des petits clins d'œil, des petites choses ici et là qui vont être glissées à l'intérieur du concert pour donner une petite ligne de conduite par rapport à ça.
Ouais.
Mais c'est vraiment de façon minimaliste. C'est vraiment juste pour porter un peu le spectateur à travers cette ligne de temps-là.
Mm-hmm, genre de petit fil conducteur.
Un petit fil conducteur. Peut-être une petite phrase qui va être énoncée, qui n'est pas nécessairement le titre de la chanson, mais qui donne un peu une suite d'idées par rapport à cette chronologie-là de la ligne de vie d'un poète, c'est ça, de l'enfance à l'adolescence, au tourment, à la passion, à l'après. Tu sais?
Parce qu'il a commencé tellement jeune, Claude Dubois, il avait une petite voix, là, il parlait qu'il mangeait des sandwichs à la moutarde. Là, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil là-dessus, mais il y a aussi le Labrador. La rue c'était-tu la rue Sanguinette? C'était quoi la chanson de Claude Dubois où il évoque la rue Sanguinette, son enfance? Franchement, j'ai une espèce de trou de mémoire. Mais en tout cas, on va tout apprendre ou réapprendre notre Dubois national dans ce spectacle-là. Il y a plusieurs représentations. Là, vous commencez à la Maison symphonique le 7 avril. Il y aura une autre représentation le 8 et une autre le 9, toujours à la Maison symphonique. Ensuite, l'Orchestre symphonique de Québec, c'est toujours vous qui dirigez, Dina
Gilbert. À ce moment-là, je recommence les répétitions avec l'Orchestre symphonique de Québec, que je connais très bien aussi. Des très bons musiciens aussi. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Et là, on fait donc d'autres date.
Au Grand Théâtre de Québec, 30 avril, 1er et 2 mai. L'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, ça va se passer à l'Amphithéâtre Cogeco le 24 septembre. Et finalement, vous serez à la salle Maurice O'Brady de Sherbrooke en 2027, 17 février 2027, avec l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Ce sont des orchestres que vous connaissez
que j'ai eu la chance notamment de faire ce genre de collaboration-là avec Harmonium Symphonique dans le passé ou d'autres projets. Donc, c'est des orchestres avec lesquels c'est le fun de se retrouver puis qui sont très enthousiastes par rapport à ce genre de programme-là parce qu'après le succès, c'est ça, d'autres productions de GSI, je pense qu'ils comprennent à quel point ça vient toucher d'autres publics. Que ça fait en sorte qu'on a plus de gens qui apprécient la musique symphonique et qui, bien sûr, redécouvrent peut-être aussi même Claude Dubois, donc sous un autre angle, on va dire. Donc,
alors, j'avais un trou de mémoire et le titre était « J'ai souvenir encore ».
Ah ben!
ça m'est revenu, une de ces belles chansons. Vous, votre chanson préférée de Claude Dubois, est-ce que c'est une question qui se pose, ça?
C'est difficile, mais je pense que j'irai avec « Si Dieu existe », parce que je me dis, cette chanson-là, my God, si elle n'existait pas dans le répertoire... Je sais pas, il y en a plusieurs, mais je pense que c'est celle-là qui vient toujours me chercher d'une façon particulière.
Oui. C'est une de ses grandes chansons qu'il a aussi chantée en duo avec Céline Dion, et ça donne un moment... c'est suspendu dans le temps. Il y a comme une magie, là. Les deux voix ensemble, c'est de toute beauté. Et vous êtes née dans une famille de 6 filles. Est-ce que vous êtes la cadette?
La numéro 5.
OK. Donc, est-ce que c'est une... Est-ce que chez vous, vous faisiez tous et toutes de la musique?
Mon père n'était pas musicien de formation, quoi que ce soit. Par contre, il voulait absolument que ses filles fassent de la musique. Donc, on a été initiés très rapidement par des cours de piano, faire partie de chants, de chorale de jeunes et tout. Puis c'est seulement moi, par contre, que poursuivais en musique après toutes ces années-là. Je me disais, oh mon Dieu, mes parents qui ont payé des cours de piano à leurs six filles à chaque oui. semaine.
Mais trouvez-vous que c'est du temps perdu, ça?
Ah non, du tout. Dans le sens, c'est... Non, du tout. C'est pas du temps perdu. Moi, c'est seulement le fait que, ironiquement, mes sœurs, au moment de trouver une profession, trouvaient facilement quelque chose. Alors que moi, je me disais, mais comment ça se fait que moi, je trouve rien? Mais je fais de la musique. Oh, en attendant, je vais aller faire un cégep en musique. En attendant, je vais... Après ça, après avoir fait des études en piano, j'ai décidé de faire un baccalauréat en clarinette. Puis en attendant, c'était toujours un peu comme pour me rassurer, parce que je savais que c'était quand même des métiers qui sont difficiles. Et quand j'ai tombé sur la direction d'orchestre, je dirigeais déjà de façon autodidacte des chœurs pour enfants, dans les cadets. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience de millage, on va dire, de podium à diriger. Puis, à un moment donné, j'ai eu la chance d'avoir un cours d'initiation à la direction d'orchestre pendant mon baccalauréat à l'Université de Montréal. Puis, tout de suite, le professeur a dit, « Bien, Dina, t'as une super bonne oreille, t'as une facilité à t'exprimer avec tes mains. Est-ce que t'avais pensé être chef d'orchestre? » Puis, c'est vraiment juste grâce à cette discussion-là banale, oui. Que j'ai réalisé que ça pouvait être possible. Parce que pour moi, être chef d'orchestre, c'était comme être astronaute. Je sais que ça existe, mais j'ai aucune idée comment on fait pour se rendre
c'est
là.
C'est quoi le chemin?
Ouais. Et là, il m'a guidée. Donc, je me suis préparée pour le concours pour être acceptée à la maîtrise en direction d'orchestre. Là, j'ai été acceptée à la maîtrise, au doctorat en direction d'orchestre. J'ai été choisie par Kent Nagano par la suite pour être son assistante avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Et là, tout a vraiment déboulé.
Le reste, c'est de l'histoire.
Des décennies plus tard.
Encore très jeune. Et souvent, on remarque aussi votre énergie. Je la remarque aujourd'hui, entre autres. Mais dans votre façon d'être chef d'orchestre, vous êtes énergique, vous êtes précis. Et vous diriez quoi, Dina Gilbert, à ceux et celles qui se posent la question, c'est quoi, ça prend quoi comme qualité principale pour être un bon ou une bonne chef d'orchestre?
C'est certain, avoir une très, très bonne oreille, donc une écoute.
L'oreille absolue?
Faut pas nécessairement avoir l'oreille absolue, mais il faut avoir une oreille pour être capable de vraiment très, très rapidement analyser beaucoup de choses dans un temps restreint, être capable aussi de comprendre les musiciens qui sont devant nous, parce que bien sûr, selon le niveau de l'orchestre, on va s'adresser d'une façon différente. C'est donc un travail de collaboration, de coopération, de comprendre cette énergie-là aussi, ce rythme de répétition-là, à quel moment les musiciens peuvent être fatigués pour garder toujours le momentum. Donc, c'est un métier qui autant, je dirais, 50% musical, 50% psychologie humaine et de groupe. Donc, c'est quelque chose qui est fascinant, je trouve, d'amener ces deux choses-là. Donc, autant l'humain que la musique, c'est deux choses qui sont vraiment importantes à avoir en tête si on veut être chef d'orchestre.
Il n'y a pas beaucoup de femmes chef d'orchestre.
Encore peu, mais on devient de plus en plus. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, c'est certain. Là, on parle des... Je sais pas, là, je me souviens plus c'est quoi les statistiques. Maintenant, il y a peut-être 10 ans, c'était 4 % des chefs d'orchestre. Maintenant, c'est peut-être 7-9 % mais c'est toujours l'accès à des postes prestigieux qui reste encore un peu le plafond de verre. Là. C'est ouais. ça qui est un peu qui est encore difficile, mais on va espérer que ça change dans les prochains temps.
Ce serait quoi votre plus grand rêve en tant que chef d'orchestre?
Ah, bien que justement, tout soit accessible, que tous les postes de haut niveau en Amérique du Nord, en Europe, soient accessibles.
Vous dirigez quel
orchestre? Bien, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai hâte de voir qu'on nomme une femme chef à New York, à Cleveland, à Boston, à Montréal, pourquoi pas? Donc, tu sais, à Philadelphie. Donc, tu sais, c'est des orchestres qui sont fabuleux, mais qui, dans toute leur longue histoire, n'ont pas encore eu de femme comme directrice musicale. Donc, je pense que c'est le temps que ça change.
C'est le temps, c'est plus que le temps.
On va voir. Ouais. On va espérer que ça se matérialise, puis que peut-être que je sois une de ces chanceuses dans le futur. On se le souhaite.
On vous le souhaite, puis vous le méritez amplement. Et bien, qu'est-ce qui vous habite là, comme sensation, comme émotion à la veille ou presque veille? En tout cas, c'est dans 6 jours, ça s'en vient. La première de Dubois Biographie Symphonie.
Bien, c'est une fébrilité, là. On est justement dans les derniers petits meetings d'équipe. Il faut comprendre que nous, l'orchestre, on répète seulement lundi. Ensuite, mardi, puis premier concert mardi soir. Donc, nous, c'est toujours des rythmes comme ça qui sont très compacts. De là, justement, la capacité, en très peu de temps, d'aller canaliser chaque chose, d'aller chercher le musicien.
Oui, ça a du bon, hein?
Ça a du bon. Oui, moi, j'adore ça. Moi, je passe d'un extrême à être solitaire avec les partitions, à regarder la musique, à lire, à interpréter tout ce qui se passe entre les notes. Puis après ça, dans un temps très, très, très restreint, de voir tous ces gens-là qui arrivent avec leur expérience, avec leur travail individuel, puis de mettre ça ensemble, c'est vraiment une joie. C'est une belle fébrilité. Moi, c'est quelque chose que j'adore comme exercice puis qui m'anime beaucoup. Donc, pour moi, c'est vraiment... avec le grand sourire, en fait, que j'attends cette belle semaine qui s'en vient là, la semaine prochaine.
Bien, nous aussi, on l'attend avec impatience. Ça s'en vient. Et je rappelle que ça va se passer à la Maison symphonique de Montréal, grande première, le 7 avril. Il y aura d'autres représentations, 8-9 avril, et ailleurs aussi, au Québec. Ça a été un plaisir de converser avec vous, Dina Gilbert. Je vous dis le mot de cambronne. Vous parliez de votre chanson préférée, « Si Dieu existe ». On va l'écouter avec Claude Dubois et Céline Dion.
Oh, wow! Beau choix!
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles aspirées.
Comme un ange.
Oui, c'est pas mal beau ça, « Si Dieu existe », Claude Dubois en duo avec Céline Dion. Hier soir, je suis sortie, c'était la première médiatique du nouveau spectacle de Maud Landry, « Spectacle trop cool », c'est le titre, et j'ai beaucoup aimé ma soirée. J'ai passé une soirée super cool, spectacle brillant, fille brillante, il faut le dire, elle est très drôle, et c'est personnel comme spectacle, c'est rassembleur aussi, et c'est pas prévisible, c'est ce qu'on aime, hein, d'être surprise. Et les réflexions qu'elle a sur elle-même, sur les autres, sur la société nous touchent et puis nous font... Moi, en tout cas, j'ai ri, je pense, aux 10-15 secondes. Soit que je souriais, tout sourire, ou soit que je m'éclatais et je n'étais pas la seule. Maud Landry est une humoriste que je qualifierais de badass, hypersensible, trop cool, quoi. Je vous rappelle que nous sommes le 1er avril 2026. Amusez-vous bien aujourd'hui. On a le droit. Tous les coups sont permis, ou presque. Hein. Il faut avoir de l'imagination. Puis souvent, les poissons d'avril, il faut que ça ait un lien avec le milieu aquatique, des poissons, etc. Faites bien ce que vous voulez, mais amusez-vous, c'est ce qui compte. À demain.